Bonjour Véronique.
Bonjour Nathalie.
Bienvenue sur les conférences Art de vivre en famille.
Merci de ton invitation.
Tu vas nous parler d'un sujet important, très intéressant, que beaucoup d'entre nous ont connu ou connaissent en ce moment. C'est comment se reconstruire après une séparation.
Effectivement, c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui. Et en fait, parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, beaucoup de gens ont connu une séparation et même si ils sont déjà dans un autre couple, je pense que ça vaut la peine de vérifier, de faire un peu la checklist pour être sûr que on s'est bien reconstruit après la séparation précédente et qu'on ne porte pas dans la nouvelle relation les traces, les cicatrices et les conséquences de la séparation précédente.
Et avant de commencer notre sujet, est-ce que tu dirais deux mots à nos auditeurs pour qu'ils te connaissent un peu mieux?
Oui, donc en fait moi je suis médecin, généraliste, homéopathe et médecin énergéticien principalement depuis 20 ans. Parallèlement j'ai suivi des formations en chamanisme et en channeling, des formations de coaching, en thérapie de couple et en sexologie, en gros.
Mais c'est très intéressant.
Ce sont des bonnes combinaisons.
Donc, revenons à la séparation et comment se reconstruire après une séparation.
Bien. Donc, je ne vais pas revenir sur quelque chose qui est déjà fort présent dans mon couple et qui est en fait le mécanisme de la formation du couple. Pardon. Ce mécanisme qui fait qu'on vient dans un couple avec des attentes et des espoirs assez nombreux, des attentes de réparation par rapport à nos blessures d'enfance. Ça, c'est bien détaillé sur mon site, ceux qui veulent aller voir plus loin peuvent y aller. Mais je vais juste résumer en disant que finalement, on choisit toujours le partenaire idéal pour venir rejouer nos blessures d'enfance. Donc on est attiré de façon magnétique et passionnelle que par rapport à quelqu'un qui peut rejouer ce rôle, l'acteur ou l'actrice favori pour jouer ce rôle. Donc si quelqu'un est porteur de la blessure d'abandon, une femme par exemple, elle ne va pas aller choisir un homme hyper disponible et hyper à ses pieds, elle va aller être attirée par un homme très occupé, qui a beaucoup de choses dans sa vie et qui va donc toujours être potentiellement celui qui l'abandonne. Alors quand vient la séparation, le gros problème c'est que comme notre attente de réparation de blessure n'a pas été exaucée, forcément nos blessures sont aggravées. Cet acteur choisi parce qu'il était potentiellement capable de m'abandonner, m'a abandonné et donc ma blessure d'abandon est encore plus forte. Et donc mes croyances sur le couple et sur l'amour se cristallisent encore plus et aboutissent à ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Si je crois que les hommes sont des gens qui abandonnent, je vais réaliser cette prophétie. Et donc la séparation, elle vient pratiquement toujours aggraver nos blessures et cristalliser nos croyances. Du coup, on entre dans la relation suivante avec ces croyances encore plus fortes, ces blessures encore plus fortes et des attentes encore plus importantes de réparation. Et bon, voilà, ça m'est déjà arrivé d'aller faire un petit tour sur les sites de rencontres, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une méthode de rencontre qui existe et qui est efficace. Et c'est incroyable comme je vois comme les femmes sont méfiantes, aigries et les hommes sont cyniques. Donc finalement, les séparations successives font de nous des personnes encore moins capables d'être dans l'amour et encore plus dans la peur. Pour moi, ce sont deux énergies, et il n'y a pas que pour moi d'ailleurs, il y a pour beaucoup de personnes qui sont en développement personnel, il y a deux types d'énergie, c'est la peur et c'est l'amour, et on ne sait pas être dans l'un et dans l'autre en même temps. Donc le gros problème des séparations, en nous rendant encore plus blessés, donc encore plus cyniques et méfiants, nous sommes encore plus dans la peur, et alors que nous aspirons à rencontrer l'amour, eh bien on part avec le mauvais matériau, avec la mauvaise énergie. Donc moi aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'aider tout le monde, tous ceux qui sont là, et d'ailleurs je remercie vraiment toutes les personnes qui prennent de leur temps pour écouter cette conférence. J'ai envie de vous aider à devenir des alchimistes. Les alchimistes, c'est transformer le plomb en or, et c'est donc transformer la peur en amour. Ça, c'est vraiment le but de la conférence.
Est-ce que... C'est un très très beau programme.
Oui, c'est clair jusqu'à présent, Nathalie ?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Au fait, dans nos premiers élans amoureux, on va chercher une personne qui va répondre à un manque qu'on a reçu dans notre enfance.
C'est ça, une blessure.
Une blessure d'objet, une blessure d'humiliation, voilà. Une blessure d'abandon.
Oui.
Et puis bah, la séparation va venir à un moment donné parce que la routine est là, parce que les histoires sont là. Et je vais avoir tendance à retrouver pratiquement la même femme ou le même homme pour continuer dans cette blessure ou dans ce manque.
C'est ça. Donc d'une part, comme ce que je veux c'est réparer ma blessure, je suis obligée d'être attirée par quelqu'un qui pourrait la réparer, mais pour pouvoir la réparer, il faut qu'il soit celui qui peut me la créer. Hein, comme je disais, la femme qui souffre de la blessure d'abandon, elle ne va être attirée que par un homme potentiellement abandonnant. Un homme marié, un homme très occupé, etc. Et d'autre part, il y a aussi nos lunettes déformantes qui font que je vais interpréter de toute façon les comportements de l'autre comme étant de l'abandon. Hein, si cet homme ne me téléphone pas 5 minutes après m'avoir quitté, tout de suite je vais voir ça comme de l'abandon, alors que pour lui c'est peut-être qu'il est simplement occupé à faire autre chose. Donc il y a cette combinaison des deux facteurs qui font que la relation vient encore plus creuser ma blessure plutôt que me la réparer.
D'accord, il y a l'idée générale de ce que je me fais de l'homme.
Oui.
Qui va intervenir aussi sur un décalage.
C'est ça. L'interprétation que je vais en faire. Moi, j'aime bien l'idée des lunettes déformantes, bon, qui, scientifiquement, hein, notre cerveau, il a un certain nombre de filtres, qu'on appelle les filtres cognitifs, et qui font qu'il écarte tout ce qui ne rentre pas dans sa logique. Hein, donc, on filtre le monde, on a une perception du monde qui corrobore notre logique, et on ne va pas voir ce qui ne correspond pas à notre logique. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est une question de hein, le corps humain, il est fait pour dépenser le moins d'énergie possible, et donc il y a une forme de facilité à percevoir uniquement ce qui correspond à ma logique. Pour aller voir qu'il y a autre chose et que le monde n'est pas que ce que je crois, ça demande un gros effort. Donc, quelque part, notre corps, il est un peu paresseux, et notre cerveau aussi, et donc il filtre la perception en fonction de ce qui vient correspondre à sa logique.
D'accord, le plus facile.
Le plus facile, le moins dépensier d'énergie en fait. Voilà, le corps est un économe d'énergie, donc le cerveau aussi, et donc voilà, on passe le monde à travers nos filtres et on n'en voit que ce qui correspond à nos croyances.
Bah, c'est très intéressant.
Et donc le pour moi, pouvoir devenir alchimiste et transformer la peur en amour, ça va partir d'un premier élément. Et c'est un élément qui n'est pas de moi, ou en tout cas pas formulé tel quel. La personne qui a formulé ça de la manière la plus claire ces derniers temps, c'est Martin Latulippe lors du dernier sommet de la réussite. Et j'ai trouvé que cette phrase résumait ce que moi j'essayais de mettre dans un concept. Et sa phrase c'est « Qui dois-je devenir pour obtenir ce que je veux ?» On est, quand on fait un peu de la thérapie, quand on fait des coachings, et il y a beaucoup de coachings de couple qui arrivent sur Internet aujourd'hui, on voit beaucoup, qu'est-ce que vous voulez? Définissez ce que vous voulez. Comment doit être celui qui ou celle que vous souhaitez rencontrer? Donc, on fait un peu une liste d'attentes, mais en fait, ça correspond toujours à des attentes par rapport à ce que l'autre doit être, faire, donner.
Oui, et donc, sur les sites de rencontres, on met les caractéristiques
voilà.
De l'homme idéal. Il faut qu'il soit blond, aux yeux bleus, qu'il gagne 25 000 euros par
voilà, mois. Qu'il soit gentil, qu'il soit attentionné, qu'il soit présent, etc. Donc c'est...
L'humour.
Oui, alors je ne dis pas que c'est mal, parce qu'évidemment c'est important de savoir ce qu'on veut, mais il y a un truc qu'on oublie, c'est qui est-ce que moi je suis ? En fait, et il y a un livre qui s'est écrit, qui a été écrit, qui s'appelait Femme désirante, femme désirée. Et moi, tout de suite, je me suis dit oui, femme aimante, femme aimée, homme aimant, homme aimé. Donc, qu'est-ce que moi je dois devenir pour créer ce couple idéal, pour obtenir ce couple idéal? Et ça, c'est beaucoup oublié dans les coachings actuels. Et si on regarde autour de soi, et j'invite les gens qui nous écoutent à regarder autour d'eux et de dire, tiens, ces femmes aimées, ces hommes aimés, qui sont-ils? Comment sont-ils? À 100%, je peux vous jurer que vous allez voir que ce sont des femmes aimantes et des hommes aimants. Alors on peut encore dire, oui, mais c'est facile d'être aimante quand on est aimé, hein, c'est vrai, mais à la base, elles sont ou ils sont aimés et aimés eux parce qu'ils sont aimants et aimantes, bienveillantes, bienveillants. Et si elles sont, si la relation s'arrête, ces personnes resteront des personnes bienveillantes. Donc, la première étape, c'est de se dire, tiens, moi, qui dois-je devenir, moi, à l'intérieur de moi, pour pouvoir créer ce couple que je désire, plutôt que de commencer par établir la liste des qualités que l'autre doit avoir, et donc, de nouveau, d'établir la liste de mes attentes. Mmh. D'accord ? Je ferai quand même une petite digression à un moment, parce qu'on entend beaucoup aussi, attention, apprenez à vous aimer vous-même, à vous respecter vous-même, ce qui est complètement vrai, mais l'écueil de ça, c'est que les gens tombent dans la méfiance. Moi, je vois surtout de la méfiance. Donc, c'est pas encore la même chose que d'être dans l'amour de soi. Hein. C'est encore deux énergies antinomiques. Être dans l'amour de soi ne veut pas dire être dans la méfiance par rapport à l'autre. D'accord ? Donc, je te propose, et je propose à vous qui m'écoutez, de démarrer ce travail d'alchimiste et de voir quelles sont les étapes pour être un alchimiste qui transforme la peur en amour. Alors, la première étape, pour moi, c'est justement de se poser cette question, et je vous préviens tout de suite, c'est un travail qui va vous demander de l'honnêteté, donc du courage, et il faudra quand même mettre beaucoup de douceur. Hein. Donc, je vous invite à allier ces deux caractéristiques de courage et de douceur. La première étape, c'est de se poser la question honnêtement, qui étiez-vous au début de la relation ? Qui étiez-vous au début de la relation ? Et puis pendant la relation, mais au début de la relation, ça veut donc dire quels étaient les manques dont vous étiez porteur-porteuse, quelles étaient les blessures dont vous étiez porteur-porteuse, quelles attentes aviez-vous, qu'espériez-vous réparer. Sur mon site, je mettrai un PDF avec toutes ces questions hein, dans l'espace membre, donc n'ayez pas de crainte de louper des étapes, tout sera écrit. Parce que si vous espériez réparer quelque chose, si vous étiez porteur d'une blessure que vous espériez réparer, forcément, le manque attirant le manque, et avec cette histoire donc de filtre cognitif, vous n'avez pu être attiré que par un ou une partenaire qui était la personne la plus susceptible de venir recréer cette blessure. Sur un site de rencontre, 100 hommes ou 100 femmes différents, votre cerveau n'aura vu que ceux ou celles qui étaient capables de venir réactiver cette blessure. Ok ? Et donc, le connaître qui on était au début de la relation nous permet déjà de comprendre pourquoi cette relation a eu lieu. D'accord ? Alors, là, je vais quand même mettre une grosse digression parce que sur mon site, je vois beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup d'hommes qui viennent en disant « Mais moi, j'ai tellement donné et je me suis quand même fait avoir. » Alors là commence l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et ça va être difficile. Si vous avez tellement donné, demandez-vous si justement vous n'étiez pas en train d'acheter l'amour. Parce que les gens qui donnent énormément, 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 à la base, leur blessure, c'est une blessure qui leur dit « je ne suis pas digne d'être aimé ». Et donc, si vous avez tellement donné que vous êtes fait avoir, c'est que vous étiez en train d'acheter l'amour. Et si vous étiez en train d'acheter l'amour, c'est que votre croyance, votre blessure est « je ne mérite pas de recevoir l'amour ». Et donc, on arrive à ce moment-là dans quelque chose de sacrificiel. Et pour moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit « les ennuis commencent dans une relation lorsqu'on privilégie le fait d'être aimé au fait d'être respecté ». Donc, d'abord, veillez à être respecté. Et si on vous respecte, c'est pas pour ça qu'on va vous aimer. Mais si on ne vous respecte pas, on ne vous aimera pas. Alors, si vous pouvez répondre à cette question, en effet, j'ai essayé d'acheter l'amour. Bon, ça fait mal de s'en rendre compte, mais c'est bien, c'est une première prise de conscience. Mais j'entends tout de suite, comme si j'y étais, la question qu'il y a derrière. Et la question c'est, oui, mais Véronique, tout à l'heure tu nous disais qu'il fallait qu'on soit aimant bienveillant, aimante bienveillante, et maintenant tu nous dis de ne pas être sacrificielle. Alors c'est quoi la différence? Comment je fais la différence? Voilà, c'est la question du siècle que tout le monde se pose. Quelle est la différence entre aimant bienveillant et sacrificielle?
Parce qu'on est quand même dans une société et puis où il faut donner à l'autre. Hein. On est tout le temps sollicité et invité par la société civile à travers les associations, par les médias ou même par les religions voilà. À donner. Voilà. C'est très paradoxe ce que tu dis.
Oui. J'en ai bien conscience. J'aime bien les paradoxes.
Il faut toujours penser à l'autre avant que à soi. Donc,
voilà.
On a été éduqués dans ce schéma-là.
Tout à fait. Et c'est vrai que ce sont les valeurs morales qui nous déchirent justement entre ces deux pôles et qui nous empêchent de faire la distinction entre c'est quoi être bienveillant aimant et c'est quoi être sacrificiel. Et donc, dès que notre cerveau est en train de se demander, bon, comment vais-je faire pour être quelqu'un de valable par rapport aux valeurs morales, on perd le bon sens. Et donc, la réponse que je vais donner à cette question, comment faire la différence, elle va vous paraître bête, toute simple, au point que vous direz peut-être, mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi ai-je renoncé à mon feuilleton préféré pour être ici? Mais en fait, le bon sens, il est toujours simple. Et la réponse à cette question, elle est mathématique. Et elle est une question de proportion. Si dans la relation avec ce que vous apportez, ce que vous donnez, vous vous sentez plus souvent mal que bien, plus souvent en questionnement que serein, plus souvent tourmenté que paisible, vous êtes sacrificiel. Si dans la relation, au contraire, vous êtes plus souvent paisible, serein, bien, épanoui, joyeux, vous êtes bienveillant. C'est une question de chiffres. Après,
ressenti.
Oui, voilà. Est-ce que je me sens à 80% du temps bien, paisible, joyeuse, dynamique, sereine, alors je suis bienveillante. Si je suis à 80% du temps tourmentée, dans le doute, triste, en questionnement, en train de me demander si je fais bien ou si je fais mal, c'est que vous êtes dans le côté sacrificiel. Donc, en fait, c'est vraiment une question de bon sens, de s'autoriser à faire ce simple calcul de quelle est la proportion du temps où je me sens bien dans cette relation. Ok ? Ça, c'est un peu en réponse à... Et je sais que les gens qui sont ici, qui sont en train de m'écouter, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes probablement des gens qui vous remettez en question, qui avaient envie de bien faire, et donc vous avez très, très probablement une tendance à aller dans le sacrificiel. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette digression qui est quand même assez importante. Ok ? Donc première étape, se poser la question, qui étais-je au début de la relation ? Quelle blessure j'étais en attente de réparation ? Et donc vous comprendrez pourquoi cette relation a abouti à ce qu'elle était, à venir réveiller votre blessure, la cristalliser, la renforcer.
Ok ? Alors, je dirais aux auditeurs qui nous écoutent, c'est pas pour ça qu'il faut fuir en courant ou jeter l'eau du bain avec le bébé. Hein. S'il y a des choses qui sont des fois difficiles à écouter, il faut ne pas agir dans l'émotion et on peut retrouver des équilibres.
Bien sûr.
Hein, mais ça, tu vas en parler un peu plus tard.
Bien sûr. Ici, la conférence, elle s'intègre dans le cadre où la séparation est là ou a été là. Ok,
ouais,
pas dans
voulez, précisons bien les voilà. choses pour pas que les gens qui nous écoutent éventuellement soient peut-être
voilà interprètent les choses en voilà. disant voilà je dois m'enfuir à tout prix. Donc nous sommes ici dans la séparation a eu lieu et il faut que je me reconstruise de manière à pouvoir reconstruire une relation qui cette fois va m'apporter le bonheur.
Voilà. Okay. Je propose on va s'arrêter là et je vais reprendre une connexion parce que c'est à nouveau trop bruyant.
D'accord, à tout de suite.
Là, ça va?
Ça va, c'est mieux.
Ah, je te vois pas, mais ça y est, on reprend?
D'accord. Okay. Donc, cette première étape, qui étais-je au début et pendant la relation? Deuxième étape, que j'appelle rétablir les responsabilités. Alors, dans les responsabilités, évidemment, il y a la vôtre et puis il y a la sienne. Alors, attention, de nouveau, ne confondons pas responsabilité avec culpabilité, Ok, ce sont deux choses différentes. La culpabilité nous paralyse, la responsabilité nous permet d'avancer. Donc, à partir du moment où on a pu définir qui étais-je au début de la relation, eh bien, on voit notre part de responsabilité dans pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé, pourquoi cette relation ne m'a pas réparé mes blessures, puisque finalement, comme j'étais porteuse de ces blessures, je n'ai pu voir que l'homme ou la femme qui pouvait venir me la réveiller, et je n'ai pu filtrer dans ses comportements que ce qui venait confirmer mes croyances sur l'amour. Ensuite, il y a rétablir la responsabilité de l'autre. Et là, ne confondons pas mettre la responsabilité de l'autre et le juger ou l'accuser. Simplement, il y a des choses qui étaient dans les mains de l'autre et sur lesquelles on était impuissant. C'est comme ça. Parfois, les gens ne sont pas prêts. Parfois, les gens n'ont pas envie d'avancer. Parfois, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas changer ou qu'ils ne veulent pas changer. Et bien souvent, dans une relation, surtout quand on fait du développement personnel, on a envie d'aider l'autre à avancer pour que la relation aille mieux. Alors, il y a une phrase qui dit « on ne change pas les gens », c'est vrai, et c'est surtout, il n'y a que les gens qui peuvent se changer eux-mêmes. Donc, remettre dans les mains de l'autre ce qui était dans sa responsabilité, ça permet de, justement d'éviter de trop se culpabiliser en disant « j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, et je n'ai pas compris ça, etc. » Voilà, il y a des choses sur lesquelles nous sommes impuissants, on n'a pas le contrôle sur le changement de l'autre. Alors, quand c'est soi qui a rompu, quand c'est moi qui ai rompu, au départ, je vais avoir tendance à noircir l'autre, parce que forcément, il faut que je me déculpabilise de la rupture, donc je vais noircir l'autre, hein, je ne vais pas quitter quelqu'un de merveilleux, sinon je ne le quitterai pas. Ça vaut la peine de revenir là-dessus quelques mois après pour remettre les choses à leur place et voir en quoi on a dû noircir l'autre pour déculpabiliser et puis voir ce qui était réellement l'autre. Quand c'est l'autre qui a rompu, on a aussi tendance à le noircir, ne fût-ce que pour supporter la rupture. C'est pas une mauvaise chose pour ne pas pleurer tout le temps que de voir d'abord les côtés noirs de l'autre, hein, et de dire oh, heureusement qu'il n'est plus là parce que ou qu'elle n'est plus là parce que vraiment c'était un ou une ceci cela. Quelques mois après, revenir sur la situation et réévaluer les choses pour revoir la réalité en enlevant l'excès de noirceur qu'on a pu attribuer à l'autre. Alors, rétablir les responsabilités, ça va permettre l'acceptation. Et l'acceptation, moi je définis ça comme étant, eh bien, on va faire avec ce qui a été. Accepter les choses, c'est dire, on va faire avec ce qui est, avec ce qui a été. Ok ?
D'accord, on va, alors donc il y a cette première période où effectivement on va charger beaucoup l'autre pour faire un peu porter sa responsabilité parce que ça aide.
Voilà, ça aide que l'on soit celui qui rompt ou celui qui est quitté.
Voilà, et puis après bah, il faut prendre du temps pour regarder les choses dans l'équilibre.
Voilà.
Et pour être à chacun sa part de responsabilité.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre doit accepter sa part de responsabilité. Ce travail, on le fait pour soi. Il ne faut pas recontacter l'autre en disant « Tiens, as-tu conscience que ta part de responsabilité, c'est ceci ou cela ?» C'est un travail qui est inutile, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, l'autre, s'il a envie de changer, il mettra en route ce qui doit changer. Okay, ça ne nous concerne plus. Hein. On est séparés, donc ça ne nous concerne plus. Mais pour soi, c'est important de voir quelle était sa part de responsabilité à soi et à l'autre.
D'accord. Et ça, en fait, c'est important pour éviter de retomber sur des schémas répétitifs.
Disons que c'est très important pour justement pouvoir être dans l'acceptation principalement. Moi, je vois beaucoup de personnes qui restent coincées dans les regrets et de dire oh, et pourtant cette relation était si belle au départ et il ou elle me semblait quelqu'un de merveilleux et puis comment ça se fait que ça n'a pas marché. Finalement, mettre les responsabilités et dire mais l'autre n'était pas prêt, l'autre n'avait pas envie d'avancer, l'autre n'avait pas envie de se remettre en question, ça permet d'éviter de rester dans un deuil non fait pendant des mois, voire des années.
D'accord. Ah oui, tu utilises le mot deuil, hein, c'est...
Oui.
D'accord, deuil de cette relation.
Voilà, et même si oui, au départ, elle était merveilleuse, fantastique, hein, on ne peut pas rester 10 ans à souffrir, dans le souvenir des 6 mois merveilleux du début. Mmh. Ok. Donc, accepter l'impuissance, accepter ce qui a été, accepter que tout n'était pas dans nos mains et que il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire et qui étaient impossibles à réaliser. C'est ça qui permet alors d'avancer parce que le deuil a été fait.
D'accord.
Alors j'en profite pour faire une petite invitation justement de, dans la nouvelle relation hein, qui est là ou qui va être là. Posez-vous justement la question, si vous êtes ici à m'écouter ce soir, c'est que vous êtes quelqu'un qui se remet en question. Hein? Sinon, vous seriez en train de jouer au foot ou de regarder un feuilleton ou d'aller vous promener avec vos copines. Donc, il ne sera pas possible de faire un couple avec quelqu'un qui ne se remet pas en question.
Hein?
Donc, là, c'est déjà un premier signal pour voir suis-je maintenant ou vais-je mettre en place une relation positive. Avoir connaissance de soi en disant « je suis quelqu'un qui me remet en question » et donc c'est important d'avoir face à moi quelqu'un qui se remet en question. Si ce n'est pas le cas, arrêtez les freins. Okay? Les notes, j'aime bien parler de notes de musique, il y a des accords, des notes qui vont ensemble, des notes qui ne vont pas ensemble. Hein? Donc celui qui se remet en question, il émet une note qui ne va pas aller avec celle qui émet celui qui ne se remet pas en question. Voilà. Petite parenthèse.
D'accord.
Alors, la troisième étape dans notre travail d'alchimiste, j'ouvre juste mes petites notes, c'est donc de faire le bilan de nos valeurs. Honnêtement, souvent, quand j'accompagne des gens après une rupture, je réalise qu'ils ne savent pas quelles sont leurs valeurs essentielles. Ils vont parler de « oh, j'aimerais qu'un homme fasse ceci pour moi ou fasse cela pour moi », mais ils ne vont pas parler de leurs valeurs. Et donc, là, je vous inviterai dans le PDF que vous pourrez télécharger sur mon site à, sans réfléchir, pouvoir faire la liste de vos 5 valeurs fondamentales dans la vie. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ? Donc, pas dans le couple, mais dans la vie.
Hein ?
Et une fois que vous aurez listé vos 5 valeurs, vous pourrez regarder cette relation passée et cette personne avec laquelle vous étiez en relation, en demandant, mais, et lui ou elle, quelles étaient ces 5 valeurs et elles étaient-elles compatibles ? Je parlais tout à l'heure de la valeur de « c'est important de se remettre en question dans la vie ». Pour moi, par exemple, c'est une valeur importante. Si en face j'ai quelqu'un dont ce n'est pas la valeur principale, à la limite ne jugeons pas, ça n'a pas d'importance, chacun ses valeurs, mais est-ce que les notes étaient harmonieuses ? Hein ? Est-ce que la chanson qu'on chantait ensemble pouvait donner une chanson harmonieuse ?
Oui, il y en a dont la valeur c'est la réussite sociale ou c'est l'argent, pour d'autres ça va être de manger sain ou faire du sport.
Voilà, donc...
Et des fois, donc, certaines valeurs sont pas forcément...
C'est pas forcément compatible. C'est pas forcément compatible. Et le piège, souvent, et ça, c'est souvent pour les femmes ou les hommes qui ont bien développé leur partie féminine, c'est, oui, mais il a ou elle a le potentiel de... OK ? Oui, mais c'est quelqu'un qui pourrait être à l'écoute. C'est quelqu'un qui pourrait se remettre en question. Oui, OK. Hein ? Et là, je vais être un petit peu... quête, comme on dit, c'est on s'en fout du potentiel. Qu'est-ce qui est réel aujourd'hui ? Ok ? Nous, notre job, c'est pas de réparer l'autre, c'est pas de rendre possible ce potentiel. Ou alors, il faut le faire dans un job de thérapeute. Mais dans le couple, on n'est pas le thérapeute. Donc, hein, on peut aider l'autre à aller mieux, on peut aider l'autre à se guérir, mais on n'est pas celui qui doit le redresser. Hein, parce que finalement, voir le potentiel et dire, voilà, l'autre pourrait être quelqu'un de tellement bien, ben quelque part, c'est dire, il est tordu, mais moi, je vais le redresser. À la limite, on a un petit défaut d'humilité, là. Hein. Donc, ce qui pourrait être ou ce qu'elle pourrait être, on s'en fout. Qu'est-ce qui est réel aujourd'hui ? Le couple harmonieux, il peut se baser que sur ce qui est réel aujourd'hui. Donc, dans ce bilan des valeurs, faire le bilan de vos valeurs essentielles, les 5 valeurs, et puis voir est-ce que l'autre a les mêmes valeurs, est-ce que nos notes vont donner un bel accord harmonieux. Et pas l'accord potentiel, hein. Ok ? Ça va, ça te semble clair jusqu'à présent ?
Oui.
Alors, l'étape suivante de notre travail d'alchimiste, maintenant qu'on a fait ces autres étapes, c'est de pouvoir voir quel était le cadeau. Et quand je dis quel était le cadeau, j'ai envie de dire pas dans la formulation négative, hein, du style « Ouais, maintenant, au moins ça m'aura appris que je dois plus... que je ne dois plus choisir un macho, ou que je ne dois plus choisir une femme qui a un caractère trop fort. Au moins, ça m'aura appris à ne plus accepter n'importe quoi. Okay? » C'est, là, c'est dans le cadeau, c'est « ça m'aura appris à ne plus. » Bon, ça, c'est le nouveau de la peur et de la méfiance. Hein? Okay? Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer de la gratitude par rapport à ce que la relation nous a apporté. Alors, développer la gratitude, voir le cadeau de la relation, ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle un échec ou une réussite dans le couple. Ça, c'est aussi des questions que j'ai beaucoup de la part des gens, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est très ancré. C'est finalement, la réussite du couple, c'est rester ensemble pour toujours, s'aimer pour toujours. Un peu conte de fées. Et c'est vrai que c'est possible, je dis pas que c'est pas possible. Mais à partir du moment où on ne voit comme réussite que ça, ben, après une séparation, forcément, on voit le couple comme un échec. Et même pour se lancer dans un couple, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça après une séparation, il y a la peur de se lancer, parce qu'on a peur de l'échec, parce qu'on définit la réussite comme étant l'amour pour toujours. Pour moi, la réussite d'un couple, c'est est-ce que ce couple m'a apporté et nous a apporté ce qu'il était venu nous apporter. Et parfois, c'est un couple de 6 mois, ou un couple qui ne s'officialise pas, un couple qui n'aboutit pas sur le fait de s'installer ensemble, un couple qui se sépare, mais qui pourtant a réussi son objectif, qui était de me faire prendre conscience de certaines choses, de me faire grandir, de me faire évoluer. À partir du moment où on dit que la réussite du couple, c'est cela, on peut voir que le couple qui est terminé aujourd'hui a porté un cadeau. Alors, au départ, c'est très difficile quand on est en pleine séparation ou en phase post-séparation, quand on est encore en colère, quand on est encore triste, quand on est encore déçu, etc., ou quand on a encore la sensation de se faire avoir. C'est très difficile d'imaginer que la relation pouvait être un cadeau. Et surtout, c'est très difficile de dire « oui, c'est ça, il faudrait que je lui dise merci en plus à ce stupide ou à cette stupide femme ». Et donc, l'idée n'est pas de valoriser l'autre, hein, pour lui, mais pour soi. Parce que finalement, le bilan qu'on fait de la relation, il parle plus de moi que de l'autre. Ok ? Si je dis, bah, l'autre, de toute façon, c'était un immature, un égoïste, une caractérielle, etc., ça parle de moi, ça dit, ben, moi, je suis quelqu'un d'aigri. Si je dis, l'autre m'a apporté une meilleure connaissance de mes blessures, l'autre m'a apporté une meilleure capacité à prendre soin de mes besoins, ça ne définit pas nécessairement l'autre comme quelqu'un de merveilleux. Quand on est en colère contre quelqu'un, on n'a pas envie de le définir comme quelqu'un de merveilleux, mais ça me définit moi comme étant capable de recevoir. Hein? Donc dans ce travail d'alchimie de transformer la peur en amour, accepter le cadeau, voir le cadeau, c'est se définir soi-même comme étant quelqu'un capable de recevoir un cadeau.
En fait, c'est se poser la question de qu'est-ce que cette histoire m'a appris de moi et m'a permis de faire et nous a permis de faire ensemble.
Oui, et d'avancer sur ce chemin d'évolution personnelle. Parce que toute relation qui arrive dans notre vie... n'est pas par hasard, elle est là pour nous apporter quelque chose en termes de prise de conscience, de révélation d'une partie de nous-mêmes. Et donc, c'est toujours une réussite.
Mais comment justement on quitte sa colère ou sa peur ? Sa peur de se tromper, la peur de l'échec, la peur de retomber sur le même type d'homme ?
Eh bien, le fait de pouvoir être dans cette gratitude... et de dire, voilà, j'ai reçu ceci de cette histoire, hein, même si elle n'a pas abouti comme je l'aurais voulu, etc., j'ai au moins reçu ceci, eh bien, ça nous permet justement de quitter la colère. Hein. Et donc, c'est un peu un cercle vertueux. Si je décide de parler de moi plutôt que de parler de l'autre, et de me définir comme quelqu'un qui peut recevoir un cadeau plutôt que de me définir comme quelqu'un d'aigri, je peux alors quitter la colère contre l'autre. Je peux voir que un couple, même s'il se sépare, ce n'est jamais un échec. Et donc, si j'abaisse un peu mon critère de réussite du couple, hein, et d'aller dans l'absolu, il faut que le couple prochain soit le bon, donc celui qui va durer toujours, alors on a moins peur de l'échec parce que justement, on définit la réussite non pas comme un couple qui va durer toujours, mais comme un couple qui va m'apporter quelque chose. Et alors, on peut s'inscrire dans... j'aime bien cette idée que le futur n'est qu'une succession d'instants présents. Et donc, dire « je voudrais que cette relation aille bien pour toujours », ce n'est possible que si je suis capable de dire « ici, aujourd'hui, maintenant, elle remplit sa fonction de me faire avancer ». Tu vois ? Donc c'est vraiment de nouveau le cercle vertueux qui dit « si je veux que l'avenir soit beau, je dois être capable de m'occuper du présent. Et pour être capable de m'occuper du présent, je dois cesser de m'inquiéter du futur. Si je veux réussir à ce que ce couple dure, je dois cesser de vouloir que ce couple dure à tout prix. Mais je dois être capable de voir le cadeau du présent et du passé. »
D'accord, c'est très intéressant.
Voilà, c'est un concept à nouveau paradoxal, mais tu sais, moi j'aime bien les paradoxes parce que finalement les paradoxes, ils nous permettent de trouver le juste milieu entre les deux extrêmes. Mmh. Ok. Alors, l'étape suivante, ça va, j'ai encore un peu de temps, Nathalie ?
Oui, t'inquiète pas, j'ai encore du temps pour toi.
Ok. Alors, le point suivant sera un peu plus court parce qu'il est la conséquence. Mmh. À partir du moment où j'ai pu voir quel était le cadeau, je peux pardonner. Alors, le pardon, un grand concept, souvent difficile. Difficile parce que on est de nouveau dans des extrêmes et dans des absolus. On a du mal à rentrer dans le pardon parce qu'on croit qu'il doit être total, complet et immédiat. Le pardon, il peut être partiel, il peut être retardé, il peut être sous condition. Ça peut être « je pardonne ceci, mais pas cela ». Ça peut être « je pardonne pas maintenant, mais je pardonnerai peut-être un jour ». Hein? Et j'aimais cette intention. Et donc, le pardon n'est pas, je veux dire, quelque chose de statique, c'est un chemin. Et à partir du moment où on peut ne fût-ce qu'avoir l'intention d'entrer sur ce chemin, hein, et si on est très proche de la séparation, on peut très bien dire « eh bien non, là maintenant je ne pardonne pas, mais peut-être que j'y arriverai un jour. » On est déjà sur le chemin et c'est déjà magnifique. Et le pardon, il doit englober trois volets. L'autre, soi-même et la vie. Hein? Alors l'autre, voilà, on l'a dit tout à l'heure, définir, pouvoir, disons, avoir de la gratitude par rapport à l'autre et donc pardonner à l'autre, ben, c'est se définir soi-même comme étant quelqu'un capable de recevoir et de pardonner. C'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est le pardon à soi-même. Et c'est de là que je retourne à cette histoire un peu de l'impuissance, voir ce qui était possible, voir ce qui n'était pas possible. S'il vous plaît, pardonnez-vous de ne pas avoir tout fait. Pardonnez-vous de ne pas avoir réussi à. Pardonnez-vous de ne pas avoir compris que. Pardonnez-vous de ne pas avoir essayé encore ceci ou cela. Ok ?
Donc en fait, c'est encore un paradoxe. Tu es en train de dire que donc une étape pour se reconstruire après une séparation ou un divorce, une des étapes, hein, c'est celle de pardonner, mais c'est se pardonner à soi, et pas forcément à l'autre au départ.
Mais l'autre aussi, mais je dirais dans notre univers un peu teinté de morale judéo-chrétienne, c'est pas le plus difficile.
D'accord.
Parce que c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on nous a appris. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on y arrive tout de suite, hein, et on peut, comme je disais, être dans un cheminement, et un pardon partiel, et un pardon petit à petit, et un pardon à condition que, hein. Mais le plus difficile, c'est se pardonner à soi-même.
D'accord, hein. Donc se pardonner à soi-même et se donner du temps sur
voilà,
ce chemin.
Sur ce chemin. Et pardonner à la vie. Alors ça, c'est un concept un peu plus subtil, mais qui est quand même bien présent. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une culture de la vie est difficile, il faut se battre. Du coup, ben, l'amour est difficile, il faut se battre. Et donc, on est dans une espèce de, comment je dirais, de rancœur par rapport à la vie. Hein, parce que ça ne correspond pas au aux rêves qu'on avait quand on était petit. Quand on est petit, la vie, elle est merveilleuse, elle est pleine de couleurs, c'est Disneyland, hein, ok, tout est beau, tout est lumineux, tout est joyeux. Bon, évidemment, je ne parle pas des personnes qui ont des histoires d'enfance avec des maltraitances, etc. Hein. Mais ouais. Globalement, dans une famille suffisamment bienveillante et aimante, on découvre le monde avec des yeux écarquillés d'émerveillement. Et puis petit à petit, à force de se frotter un peu aux différentes étapes qu'on doit franchir dans la vie, on perd cette capacité d'émerveillement et on ne voit plus que tout ce qui est difficile dans la vie. Et du coup, et l'exemple que j'ai, je ne citerai pas la personne, mais j'étais avec un jeune adulte justement en train de visiter un parc d'attractions à Orlando, et on visitait la partie pour les enfants qui était rose, verte, jaune, colorée. Et il me dit, tu vois, quand j'étais petit, je pensais que le monde était comme ça, bleu, rose, vert. Et maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. Et puis, je lui ai dit, où es-tu aujourd'hui ? Ah ben je suis à Orlando en train de visiter je ne sais plus quelle part d'attraction. Ok, poste ça sur Facebook et regarde les réactions de tes potes. Mmh. Ils vont dire waouh, super, génial, qu'est-ce que t'as de la chance, t'as pas une place pour moi. Mmh. Et donc tu es là en train de visiter un truc super que tous tes copains t'envient et tu es en train d'être triste que la vie n'est pas aussi rose, vert, bleu que quand tu étais petit. Donc tu ne vois pas qu'elle est rose, verte et bleue. Mmh. Hein? Donc je ne sais pas si c'est compréhensible, mais l'idée c'est, nous sommes tout le temps dans le regret que cette vie ne soit pas aussi belle, aussi joyeuse, aussi merveilleuse que dans nos rêves d'enfance. Et du coup, nous oublions que la vie est belle. Et donc quand on est dans une rupture, dans une séparation, pour revenir au sujet de la conférence, Nous en voulons à la vie d'être si dure, nous en voulons à la relation d'être si compliquée. Donc, nous devons aussi pardonner à la vie.
D'accord.
Mmh. Hein? Et ça se traduit souvent par la question, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi l'amour c'est pas plus simple? Et pourquoi je n'ai pas encore réussi à trouver un couple? Hein? C'est parce que la vie n'est pas bienveillante avec moi. Donc, pardonnez à la vie et autorisez-vous à regarder aussi tout ce qu'elle a de beau. Revoyez qu'elle est rose, verte et jaune dans plein de points que vous ne voyez plus parce que vous êtes engloutis dans votre nostalgie.
Mmh.
Ok.
Ok.
Je ferai un petit récapitulatif de mes étapes et je rappelle qu'il y aura un PDF avec ça. Il n'est pas encore fait, mais il sera fait très très bientôt.
Oui, et puis... ton intervention et ta conférence est très très complémentaire avec celle sur la culpabilité et le pardon. Donc j'invite aussi les auditeurs à aller peut-être écouter ces deux autres conférences qui complètent très très bien ton intervention pour se reconstruire après une séparation.
Ah bien oui, c'est vrai que finalement tous ces thèmes-là, ils s'entrecroisent. Et c'est intéressant de pouvoir bénéficier des mots. Moi, j'ai mes mots et puis d'autres intervenants ont leurs mots à eux. Et voilà, il y a certains mots qui vont plus vous percuter, d'autres qui vous percuteront moins. Et donc, avoir plusieurs façons de s'exprimer, c'est intéressant pour intégrer des concepts. Mmh. Alors, l'étape suivante, eh bien, c'est restaurer l'estime de soi. Mmh. Alors, je vais essayer de ne pas la faire trop longue et essayer de bien résumer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'estime de soi, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas toujours ce que ça représente.
Dis-nous, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Parce que c'est vrai que je trouve que c'est une notion assez compliquée.
Voilà, c'est une notion.
Confiance en soi, estime de soi, image de soi.
Oui. Alors, la question à se poser d'abord, c'est pour savoir si j'ai une bonne estime de moi. La première question que je me pose, c'est ne suis-je pas toujours en train d'essayer de prouver ma valeur? Ok. Je vais prendre un exemple. Si j'étais chirurgien et que je vous dis, allez, venez vous faire opérer, je vais vous prouver que je sais opérer. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'enfouillent en courant. On est d'accord, hein? Si je te dis, allez, viens sur ma table d'opération, je vais te prouver que je sais opérer, les gens se barrent, ils ont bien raison. Ok. Mm-hmm. Donc, pour estimer si on a une bonne estime de soi, On doit voir si dans nos différents volets, que ce soit professionnel, familial, de couple ou de parents, si on n'est pas tout le temps en train d'essayer de prouver notre valeur.
Mmh.
Ok ? Alors, ça peut se traduire, bon, je ne sais pas faire la liste de toutes les phrases qui représentent le fait de prouver sa valeur, mais ça peut être tout simplement, écoute, tu sais bien que j'ai raison.
Mmh.
Hein? Là, on est en train de dire, tu sais bien que je sais opérer, viens voir, je vais te le prouver.
Mmh.
Ok ? Si on peut dire quelque chose en ne disant pas, ben, allez, reconnais que j'ai raison, on n'est pas en train d'essayer de prouver qu'on a raison. Ok. Donc, ma définition de l'estime de soi, elle est une définition en négatif, hein, comme en photographie.
Oui.
C'est si je suis perpétuellement en train d'essayer de prouver ma valeur, c'est que je n'ai pas d'estime de moi.
D'accord.
Et ça se mesure comme ça. Ok. Parce que quand on cherche à prouver sa valeur, on la minimise en fait. Ça montre qu'on n'a pas conscience de notre valeur puisqu'on demande au regard extérieur de l'évaluer et de la valider.
Mmh.
Okay? Donc avoir une bonne estime de soi, c'est ne pas avoir besoin que l'autre valide notre estime de soi. Donc pas avoir besoin de la prouver, de convaincre l'autre. Le bon chirurgien, il doit pas dire « Allez, venez vous faire opérer chez moi. »
Oui, oui.
Mmh. Okay? Et pour pouvoir mettre ça en place et cesser de vouloir prouver sa valeur, moi, je passe par l'étape que j'appelle licencier Martine. Alors, Martine, pour moi, mais vous pouvez appeler votre Martine autrement, c'est l'emmerdeuse qui me dit tout le temps, il faut, tu dois, tu aurais dû, tu ne devrais pas, si tu fais ça, tu es méchante, si tu fais ça, les autres ne vont pas t'aimer. Ça, c'est Martine. Martine, c'est mon tyran. Martine, c'est mon institutrice désagréable. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. J'ai eu une institutrice très pénible, très exigeante, elle s'appelait Martine. Donc, ma Martine intérieure, c'est celle qui me dit en permanence tout ce que je ne devrais pas faire et tout ce qui est mauvais en moi. Et donc, pour restaurer l'estime de moi, moi j'ai licencié Martine et j'ai engagé Coralie.
D'accord.
Et Coralie, c'est ma coach intérieure qui est une bonne coach, qui est encourageante, qui me dit « Vas-y, tu vas y arriver, courage, tu en es capable, j'ai confiance en toi ».
D'accord.
Et donc, restaurer l'estime de moi-même, c'est passer par l'étape de licencier Martine et d'engager Coralie pour avoir en moi une petite voix intérieure qui m'encourage. De manière à ne plus avoir besoin d'aller chercher cette voix à l'extérieur de moi pour valider ma valeur et donc ne plus avoir besoin de la prouver.
D'accord.
Et je sais que certaines personnes trouveront que je n'ai pas de valeur.
Mmh.
Hein, que ce que moi je suis et ce que je peux apporter n'est pas ce dont ils ont besoin. C'est ok.
Mmh.
Ceux qui peuvent voir ma valeur, je n'ai pas besoin de la leur prouver, ils savent la reconnaître par eux-mêmes et ils viendront la chercher sans que j'aie besoin de la prouver.
Mmh.
Ok. Donc pour moi, voilà, la définition c'est celle-là, c'est licencier votre tyran intérieur et cesser de vouloir prouver votre valeur.
D'accord.
Pour restaurer l'estime de soi. Ok.
Ok.
Alors, nous progressons dans ce travail d'alchimiste. Attends, je regarde un petit peu où j'en suis. Voilà. Parce que j'ai besoin de mon petit support. La dernière étape de ce travail, c'est pour passer donc dans une relation suivante, ou si vous êtes en relation, vous pouvez encore faire ce travail, hein, ça ne veut pas dire que c'est trop tard. C'est donc de clarifier votre intention. Moi, j'aime beaucoup cette notion d'intention qui a été une intention, un concept que j'ai vraiment découvert avec le chamanisme. Clarifier l'intention, c'est reprendre donc ces cinq valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Reprendre ces cinq valeurs et de les formuler en « je suis ». Hein, puisqu'on parlait de se poser la question qui étais-je au début de la relation et qui je dois devenir pour pouvoir créer le couple épanouissant que je souhaite. Et donc, en reprenant vos valeurs et en les formulant en « je suis », vous allez pouvoir construire une relation et attirer dans votre vie et voir sur votre chemin la personne qui chante la même note que vous. Par exemple, pour moi, une de mes valeurs est être quelqu'un qui se remet en question. Et donc, la formuler en « je me remets en question » ou « pour moi, ce qui est important, c'est d'être avec quelqu'un de joyeux et de dire « je suis joyeuse » ou « globalement, pour moi, c'est important d'être aimée et de dire « je suis aimante », ça va créer en vous le fameux « gloops » qui est donc cette espèce de nœud à l'intérieur qui nous montre que ce n'est pas encore réellement acquis. Hein, quand on dit « je suis aimante », si ça fait « gloops » dans votre ventre, c'est que quelque part, ce n'est pas complètement acquis. Si quand vous dites « je suis joyeuse », ça fait « gloops » dans votre ventre, c'est que ce n'est pas acquis. Ok.
D'accord.
Et donc,
je t'interromps. Ouais. Donc, j'ai trouvé les cinq valeurs qui me définissaient, qui me caractérisaient, ce que j'avais envie de vivre dans mon quotidien.
Ouais.
Et je le formule à la première personne pour me définir. Donc, je suis une femme douce ou je suis une femme qui aime la beauté, ou je suis une femme qui aime la réussite.
Oui, et par rapport, bon, comme on est en train de travailler vraiment sur le côté relationnel, on va vraiment essayer de mettre ces valeurs par rapport à la relation.
Okay. Par rapport à la relation. Et quand je prononce cette phrase et que je sens qu'elle ne résonne pas bien en moi, qu'elle me procure des sensations, alors toi tu parles du ventre, mais ça peut être au niveau de la gorge ou peut-être ailleurs.
Oui, ça pourrait être ailleurs. Ça pourrait être ailleurs. Un inconfort physique, quel qu'il soit.
Voilà. Un inconfort physique, ça veut dire que dans notre jargon, on dit qu'il n'y a pas d'alignement du coup.
C'est ça. Qu'en fait, c'est un souhait. Donc une attente, mais que ce n'est pas intégré dans nos cellules, ok?
D'accord.
Donc si je pars du besoin, la valeur pour moi c'est la joie, donc dans le couple j'ai besoin d'être avec quelqu'un de joyeux, je le définis, donc je définis mon intention en jeu, je suis joyeuse, si ça fait gloops, c'est que ce n'est pas encore vrai. Et donc mon travail sur moi va devoir m'amener à être joyeuse. Hein? J'ai besoin d'être aimée. Ma valeur principale, c'est l'amour. Je suis aimante. Si ça fait gloops, c'est que ce n'est pas encore intégré.
D'accord.
Okay? Et donc, quelles sont les étapes par lesquelles je vais devoir passer pour que ça devienne la vérité? Hein? Et c'est là qu'on rejoint à ma première question du départ. Qui dois-je devenir pour obtenir ce que je veux, pour créer ce couple harmonieux. Ok ?
D'accord.
Donc, finalement, ça revient un peu je vais guérir mes blessures moi-même. Ok ? Si je suis quelqu'un qui a été abandonné, c'est important pour moi d'être aimé, qu'on soit attentionné avec moi, etc. Et donc, je transforme ça en « je suis aimante et attentionnée », ben, si ça fait gloops, c'est là que je dois bosser. Il y en a qui ne feront pas gloops. Il y en a qui seront intégrés parce que forcément, hein, vous tous qui êtes ici, vous avez déjà avancé sur votre chemin personnel. Il y a des choses qui sont intégrées. Mais vos plus grandes attentes viennent de vos plus grosses blessures. Elles définissent donc les plus gros gloops, hein, ce qui n'est pas encore réalisé en vous.
Mmh.
Ok ? Alors, si les cinq que vous avez trouvées, aucune ne fait gloops, continuez le boulot jusqu'à en trouver une qui fait gloops, hein. Ok? Parce que si on n'a aucune qui fait gloops, c'est que tout est ok, donc c'est que votre couple est ok, et vous êtes en train de faire autre chose que d'être ici.
D'accord.
Ok?
D'accord.
Et donc, immanquablement, quand, on va dire, ces cinq valeurs, ces cinq intentions formulées en je suis ne feront plus gloops, ça, ce sera intégré dans vos cellules, et donc, vous trouverez la personne qui vibre la même note. Vous trouverez la personne avec laquelle chanter une chanson harmonieuse.
Mmh.
Okay? Parce que comme votre cerveau aura acquis, intégré ça, comme étant la logique, comme étant la norme, comme étant la vérité, de nouveau avec les filtres, il va voir les personnes qui correspondent à ça, les actes qui correspondent à ça. Plutôt que de continuer à être attiré par Hein, si la croyance est les hommes abandonnent, eh bien parmi les 100 candidats sur Mythique, on ne verra que ceux qui sont potentiellement abandonnants. Eh bien, si en moi je suis aimante et que ça ne fait plus gloups, eh bien mon cerveau va voir les gens aimants.
D'accord.
Ok. Pour boucler ma boucle avec mes filtres cérébraux. Ok.
Donc j'ai travaillé sur ma peur. Je travaille sur mes valeurs. Je me pardonne à moi, à l'autre, à la vie. Et je m'ouvre et je me mets sur les mêmes longueurs d'onde pour accueillir l'amour.
C'est ça. Donc, en fait, pour résumer les étapes, hein, se poser la question « Qui étiez-vous au début de la relation ?» rétablir les responsabilités, faire le bilan de ses valeurs et pouvoir voir ce qui était possible et pas possible, identifier le cadeau, pardonner à l'autre, à moi et à la vie, restaurer l'estime de moi et clarifier l'intention en « je suis » et vérifier ce qui, dans mes intentions, ne se résonne pas convenablement avec moi pour travailler ça. Ok ? Et avec toujours hein, ce petit guide, ce petit baromètre mathématique pour distinguer quand est-ce que je suis bienveillante, aimante, quand est-ce que je suis sacrificielle, eh bien, en quelle proportion du temps je me sens bien dans la relation par rapport à je me sens mal.
Mmh.
Ok.
D'accord.
Donc, je rappelle, un PDF sur mon site dans l'espace membre, il vous suffit de vous inscrire pour recevoir l'accès à l'espace membre. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup de mails, hein, donc pas d'inquiétude, il n'y aura pas des spams. Par contre, probablement que j'avertirai lorsque sortira donc ce programme que je suis en train de créer et qui s'appelle « Femme aimante, femme aimée », qui sera un programme d'accompagnement justement pour pouvoir continuer ce travail d'alchimiste de l'amour. Je n'ai pas encore prévu de faire homme aimant, homme aimé, bon, parce que je pense que, comme c'est souvent les femmes qui travaillent leur relationnel, ben, voilà, si maintenant j'ai plein d'hommes qui m'écrivent en me demandant qu'ils en veulent un aussi, je le ferai.
D'accord.
Et ce que j'ai prévu aussi, c'est, donc il y aura, hein, donc ces packs de conférences en vente après la conférence, tu en as parlé ou tu en reparleras. Alors, pour moi, j'ai vraiment envie d'insister en disant, voilà, les packs de conférences, on sait bien avec les moyens aujourd'hui que probablement les conférences qui vous intéressent, vous les aurez enregistrées ou vous allez les enregistrer puisque elles sont en rediffusion. Donc en fait, c'est pas les conférences que vous allez acheter. Ce que vous allez acheter, c'est le fait que tout ceci soit encore possible l'an prochain. Toi, Nathalie, Arnaud, ton mari, vous consacrez beaucoup de temps, il y a des frais. Nous, les experts, on passe quand même pas mal de temps à faire ça. Pour que ce soit possible l'an prochain, il faut qu'il y ait du financement. Donc l'achat des packs, c'est simplement dire « moi j'ai envie que ça ait lieu l'an prochain ». Donc voilà, mais pour vous donner envie, hein, puisque bon, la conférence vous l'aurez enregistrée ou bien vous aurez pris vos notes, dans l'achat des packs, ce que je prévois en cadeau, c'est 5 audios que je suis en train de créer sur mon autre site, donc sur Impulsion Positive, qui sont des audios d'exercices, de méditation, même des voyages chamaniques, dont l'objectif est justement d'être vraiment bien en connexion avec soi-même. Parce qu'évidemment, hein, j'ai peut-être pas besoin de le dire, mais je le dis quand même, vous aurez bien compris que finalement, un couple harmonieux, la première étape, c'est d'abord d'être en harmonie avec soi. Et donc, même si ces audios ne seront absolument pas dirigés vers le couple, ce sera des audios qui vont vous aider à être vraiment en connexion avec vos pouvoirs d'alchimiste à vous. Donc voilà.
Un grand merci. Et pour compléter un peu ton échange, moi je suis quelqu'un de très engagé sur le développement durable et je pense que on ne peut pas prendre soin de la planète si on n'apprend pas à s'aimer soi et à prendre soin de soi. Et c'est l'une des valeurs des web conférences Art de vivre en famille, c'est apprendre à s'aimer, à prendre soin de soi pour prendre soin après de sa famille et soin de notre belle planète.
C'est une très belle conclusion, Nathalie, je n'ai rien à rajouter.
Voilà. Écoute, merci beaucoup Véronique et je te dis à tout de suite sur le chat.
D'accord, merci à toi Nathalie, merci pour tout.
Merci. Voilà, j'ai arrêté l'enregistrement.
D'accord.
Voilà.